Marielle Schmid pour le module 2003, santé environnementale et périnatalité. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Aurélie Schmid. Bonjour Aurélie.
Bonjour Marielle.
Puis-je te demander de te présenter brièvement et ensuite nous dire ce dont on va parler?
Avec plaisir. Alors donc, je suis Aurélie Schnorr, je suis sage-femme. Actuellement, j'exerce mon métier en tant qu'indépendante à Genève et je suis agréée maison de naissance La Roseraie. Je suis diplômée de 2009. J'ai travaillé pendant quelques années dans des structures hospitalières parisiennes et je me suis assez rapidement installée en libéral en France pour ensuite rejoindre ici la Suisse à Genève, la maison de naissance. Il y a quelques années de cela, près de 5 années maintenant, je me suis tournée vers la santé environnementale, d'abord par le biais d'une association qu'on appelle le WECF, et puis ensuite par le biais d'une école qui s'appelle l'IFSEN, c'est l'Institut de formation en santé environnementale, qui me donne aujourd'hui le titre d'éco-sage-femme. Je suis donc en fait une sage-femme à la base qui va chercher à sensibiliser les personnes les plus vulnérables comme les femmes enceintes principalement, les bébés, les enfants en bas âge, les femmes en âge de procréer et voire même les adolescentes à l'impact de l'environnement sur notre santé. Voilà, donc ça passe par des ateliers de sensibilisation principalement, mais je mets à profit toutes ces connaissances également lors des consultations prénatales et des visites postpartum à domicile. Alors, la plupart du temps, un couple qui attend un enfant se prépare à l'arrivée de cet enfant et a très envie de mettre en place une jolie chambre pour bébé, d'acheter du matériel de puériculture, souhaite se renseigner sur les différents justement matériaux, fournitures, qui peuvent aller vraiment, je veux dire, des couches, aux layettes, aux vêtements, aux jouets, mais également à la poussette, au cosy, ça passait vraiment très large. Puis, ce que je propose à ces couples-là, c'est vraiment de venir chez eux à domicile lors d'une consultation prénatale pour observer déjà leur environnement et voir ce dont ils ont envie d'en faire. Donc très souvent, il y a des grands envies de décoration, de rénovation de la chambre de bébé. Et puis, on va vraiment, à ce moment-là, je vais vraiment les accompagner sur les différents types de matériaux, différents types de peintures, différents types de mobilier vers lesquels ils peuvent aller. Donc dans l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans des conseils très simples que les couples peuvent mobiliser assez rapidement en fonction également de leur portefeuille, de leurs envies, hein, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner des informations les plus simples, les plus saines et qui peuvent rapidement mettre en place.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets?
Oui, tout à fait. Alors, si on part un petit peu dans, la rénovation, la décoration, souvent, les couples ont envie de peindre, par exemple, les murs et de faire de jolis murs pour cette chambre de bébé. Donc, typiquement pour la peinture, on va plutôt les orienter vers des peintures écologiques avec un écolabel. Donc, souvent, ce sont des peintures minérales qui peuvent présenter en fait des émissions de polluants très très faibles. Donc, on va principalement les sensibiliser à leur achat. Donc, ce sont des couples qui vont faire leur achat dans des magasins de bricolage, je veux dire des plus courants, et puis on va vraiment leur dire que c'est important d'aller regarder les écolabels et puis de regarder ce petit pictogramme d'émissions, et on va vraiment les orienter vers des peintures écologiques avec émissions faibles, donc A++, voire A+, mais en tout cas jamais beaucoup moins. Et puis par rapport à cela, on va surtout en fait les inviter à réaliser ces travaux-là le plus en amont possible de la naissance du bébé. Au mieux possible, 3 mois avant la naissance, l'arrivée de l'enfant, si vraiment on n'a pas anticipé à ce point-là, en tout cas bien 1 mois. Alors évidemment, ce n'est absolument pas la femme enceinte qui va réaliser ces travaux-là. Ça, c'est une évidence. Elle peut donner son avis, mais elle ne sera pas dans la pièce pour faire la peinture avec monsieur. Mais en effet, on va plutôt demander à ce que ce soit le mari, le conjoint qui effectue ces travaux-là, mais tout en faisant également attention à lui. On va donc lui conseiller de porter un masque, de porter des gants, et puis, bien sûr, d'aérer le plus longuement possible avant l'arrivée de bébé, cette pièce qui vient d'être fraîchement repeinte. Voilà, donc ça c'est un exemple, en tout cas parmi dans tant d'autres.
Et dans les matériaux, par exemple, on sait qu'il y a des parents qui veulent acheter un certain lit ou que ça soit les tapis. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu leur suggères?
Alors, dans un premier temps, la question du lit revient très souvent. Le bébé passe quand même beaucoup de temps dans ce petit lit-là, donc d'où l'importance de choisir des matériaux bruts et nobles. Donc, par exemple, on peut partir sur du bois brut, du bois massif. En tout cas, éviter les lits avec des revêtements en bois dits contreplaqués, contrecollés, du bois aggloméré qui émane vraiment beaucoup de polluants. Donc le bois brut, évidemment, qui est pas verni, où il n'y a pas de traitement, voilà, tout ce genre de traitement anti-taches ou autre, c'est vraiment pas quelque chose à conseiller. On peut vraiment les inviter à aller vers de la seconde main, c'est très intéressant, tout en faisant très attention également à ce que ce bois brut de seconde main ne date pas non plus d'il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que toute la législation autour de ces matériaux-là a énormément évolué ces dernières années, principalement depuis 2011, autour des colorations, des peintures, des colles. Et puis quand même, ces législations sont faites en faveur de nous, hein, de nous consommateurs, pour nous protéger. Donc les très vieux meubles qui, je veux dire, dégagent une odeur pas très agréable ou au contraire très forte, il vaut mieux ne pas les prendre, ne pas les conseiller. Ça, c'est un petit peu pour le mobilier, donc plutôt partir sur du bois. On peut partir sur du métal, ça existe également, c'est pas un problème, mais attention toutefois à la peinture qui revêt ce métal-là, donc se soucier quand même de l'origine de cette peinture, de quoi elle est composée. Par rapport à la peinture et par rapport à l'occasion, il faut aussi faire très attention à ces vieilles peintures qui sont aujourd'hui absolument interdites, qui contenaient à l'époque du plomb. Donc aujourd'hui, c'est interdit à la vente, mais on peut quand même encore en trouver, bien sûr, sur les murs de vieux appartements, sur certains radiateurs, mais aussi dans des petits lits que très souvent les gens, les couples, ont beaucoup de plaisir en fait à remobiliser parce que la grand-mère l'a donné. Et du coup, là, on se retrouve des fois avec des matériaux très dangereux.
Merci. Et puis sur les tapis, justement, est-ce qu'on peut mettre des tapis, coussins, qui est aussi rideau, si on parle sur les tissus, qu'est-ce que tu conseilles?
Alors le textile, c'est vraiment un monde où le nombre de polluants présents sont très 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 importants. Alors dans tous les cas, ce qu'on va inviter à faire et à conseiller aux parents, c'est de vraiment se poser les questions, a-t-on réellement besoin d'un tapis par exemple? Si oui, pour le confort ou pour la décoration, parce que ça nous tient à cœur, on va les inviter plutôt à acheter des tapis qui ont un écolabel, c'est-à-dire avec des matériaux qui sont des matériaux faits de fibres naturelles, non synthétiques, donc pas de mousse, pas de polyuréthane, pas de viscose. Donc ça concerne également les matelas, les housses allongées, les vêtements des bébés, donc c'est vraiment la famille des textiles. Et puis on a par exemple un label sur lequel on peut compter, car le cahier des chartres est bien rigoureux, il s'agit du label Ecotex. Donc ça nous garantit que par exemple le coton qui a été utilisé ou la laine a été en fait non traité, justement, il n'y a pas de pesticides, pas d'utilisation d'insecticides non plus, pas de colorants à émission importants de polluants. Donc voilà, on peut se fier à ces labels-là. On peut partir sur des matériaux plus nobles, comme par exemple des tapis avec des joncs de mer, du bambou par exemple, du chanvre, mais tout en ayant la certitude d'avoir un écolabel, puisqu'on peut aussi avoir du coton, du chanvre, du jonc de mer, sur lesquels on retrouve finalement des traitements. Donc ça, c'est pour les tapis, mais en ce qui concerne les rideaux par exemple, on retrouve très souvent des rideaux avec des mentions anti-taches, anti-froissures. Donc ça, il faut absolument éviter, parce que ce sont également en fait des produits que l'on utilise, que l'on appelle en fait des PFOS, qui sont absolument interdits aujourd'hui chez nous en Europe et d'ailleurs même aux États-Unis. Mais malheureusement, le textile aujourd'hui est beaucoup importé, arrive beaucoup de Chine, et par conséquent, malheureusement, ce PFOS biomasse est encore largement utilisée, voilà, dans ces pays-là. Donc attention à aller vers des matériaux avec des textiles justement naturels, écolabellisés, et se demander si on a réellement besoin d'un rideau, ou alors partir sur peut-être des rideaux en métal, des rideaux en bambou avec un label également. Ce sont des, voilà, des conseils que l'on peut donner.
Quand j'entends tout ça, je me dis, ouh, ça fait beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression, et aussi financièrement, est-ce que voilà, des petits budgets peuvent quand même réussir à...
Oui, là, en effet, la question du budget revient en tout cas dans la plupart de nos ateliers, parce qu'on parle quand même d'aller vers des produits nobles, des produits bruts, des écolabels, et c'est évident que sur ce type de produit-là, il y a vraiment une marge au niveau, voilà, au niveau finance, qui est présente. Donc, dans ce cadre-là, ce qui est important de donner comme conseil, c'est en tout cas d'y aller pas à pas. On ne peut peut-être pas, voilà, acheter et en tout cas consommer tous ces produits-là, je veux dire, écolabellisés, mais peut-être mettre une priorité sur ce qui nous semble aujourd'hui le plus important. Donc, c'est vrai que quand on accueille un enfant, on sait que cet enfant va passer beaucoup de temps quand même dans son lit, donc vraiment prioriser la qualité des matelas, ça c'est très important, prioriser la qualité du lit, mais également des vêtements et des jouets, parce que c'est ce qui est vraiment en contact de l'enfant, notamment dans l'air, hein. Vraiment, c'est ce que l'enfant, en fait, va respirer, puisque finalement, tous ces matériaux, tous ces polluants qui peuvent être présents dans ces matériaux vont dégazer quelque part de ces différentes fournitures et être présents dans l'environnement intérieur. Donc, c'est vraiment le conseil que l'on peut donner, c'est vraiment de mettre des priorités sur ce qu'on veut là, ici et maintenant, acheter. Et bien sûr, il y a la seconde main. La seconde main, comme je disais tout à l'heure, peut être intéressante, mais tout en ayant quand même à l'esprit de ne pas trop utiliser des choses trop anciennes et de faire en fonction voilà, de son budget, de son espace, de son temps, de ce que l'on souhaite faire. Essayer de faire en fait tout simplement comme on peut. Voilà, on n'est pas des parents parfaits et ça, c'est vraiment très important de se dire qu'on va aller faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les cartes que l'on a en main, mais ne pas non plus se culpabiliser à tout bout de champ, à se dire « Oh mon Dieu, voilà, là, le rideau que j'ai acheté, ça va pas du tout ». Bon, peut-être que ça ne va pas, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, quelque chose que tout le monde peut faire, c'est d'aérer le plus régulièrement possible, en tout cas 2-3 fois par jour, pour que la qualité de l'air intérieur devienne à nouveau quelque chose, en tout cas de l'air respirable et qui n'est pas un danger pour l'enfant ou pour la femme enceinte.
Mais maintenant, cette question d'aération, on en parle, mais il y a des gens qui ont aussi peur selon la pollution extérieure. Est-ce que c'est mieux quand même d'aérer avec ce qu'il y a à l'extérieur? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Alors oui, l'aération, c'est vraiment le conseil numéro un, simplement parce que nous savons aujourd'hui, de par les différentes études qui ont été menées ces dernières années, que la qualité de l'air intérieur est 8 à 10 fois plus polluée que l'air extérieur. Alors bien sûr, notre air extérieur n'est absolument pas exceptionnel non plus, mais rajouté voilà, à l'air intérieur, vraiment, on sait qu'il y a un gros impact sur la qualité de l'air intérieur, sur la santé des enfants. Donc, aérer, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de le faire. On ne va pas refroidir ses maisons en hiver en aérant. On est quand même aujourd'hui aussi dans le souci énergétique, clairement. En aérant 3 fois par jour 10 minutes, c'est-à-dire en faisant un grand courant d'air, on n'a pas le temps en fait de refroidir les murs. Mais vraiment, c'est le conseil numéro 1. Je veux dire qu'il est pour le coup un conseil pas cher et facilement réalisable par tout le monde. L'aération est vraiment quelque chose d'important.
Super, merci. Je reviens juste un peu à, tu parlais des jouets, peluches, voilà, moi j'ai bientôt des amis qui vont avoir des enfants et je veux acheter des jouets ou peluches, qualité en tout cas au niveau santé environnementale. Qu'est-ce que tu peux me conseiller?
Oui, alors ce qu'on va déjà, je commence par ce qu'on va vraiment déconseiller. C'est important d'en parler, simplement parce qu'on a tendance aujourd'hui à, voilà, à avoir pas mal, on voit quand même dans les chambres d'enfants pas mal de plastique. On sait que dans le plastique souple se trouve un polluant, enfin plutôt un perturbateur endocrinien qu'on appelle des phtalates. Les phtalates sont aujourd'hui vraiment reconnus comme perturbateurs endocriniens et avec vraiment un impact sanitaire important pour les enfants et notamment pour les enfants en bas âge qui sont justement en pleine construction dans leurs organes, dans leurs différents systèmes. Donc évitez à tout prix les jouets en plastique, mais si vraiment il y a un jouet en plastique qui nous a été offert par des amis et qu'on ne veut pas jeter, eh bien c'est important de voir sur l'emballage si on a la mention sans PVC, sans bisphénol A, sans phtalate. Voilà, ce sont des allégations qui peuvent se retrouver sur certains emballages. C'est intéressant en tout cas de les voir. Après, si on a ce type de jouets-là, il faut les déballer. Il faut vraiment les enlever de leur emballage pour qu'ils puissent quelque part être, je veux dire, dégazés de tous ces composés organiques volatiles qui vont être présents auprès de ces jouets-là et les laver simplement avec de l'eau, les frotter avec un savon neutre et puis vraiment les aérer aussi tous les jours en aérant encore une fois la pièce ou la chambre dans laquelle ils se retrouvent. Donc ça, c'est, voilà, ça c'est le côté à ne pas conseiller. Mais si toutefois on a du plastique, parce que clairement ça arrive, hein, dans le quotidien, il y a du plastique quand même encore partout. C'est vraiment à ce moment-là de les déballer, de les laver et de faire attention à ces allégations, en tout cas de voir s'ils sont mentionnés ou pas. Après, que conseiller ? Alors, on va plutôt partir dans des matériaux également plus nobles, c'est-à-dire du bois. Attention également à ce que ce bois ne soit pas coloré de peinture émissive, hein, ça c'est aussi important. Et là aussi, on a des gages de qualité aujourd'hui sur les emballages. Et on a notamment un gage de qualité pour la peinture des jouets en bois qui est le NFEN 713. Alors, c'est un petit peu barbare, mais il est en fait représenté par un petit pictogramme avec un cheval à bascule. Donc, c'est assez intéressant en fait de le voir sur les emballages parce que nous sommes à ce moment-là sûrs d'avoir des peintures avec un écolabel où il n'y aura à l'intérieur ni formaldéhyde, ni métaux lourds par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a quand même encore à cet âge-là, clairement, des enfants qui mettent les jouets en bouche. Et à ce moment-là, vaut mieux en effet leur éviter ce type de substance-là. Autre chose très importante dans les jouets, on peut partir sur des jouets de type textile, j'ai envie de dire, des poupées qui sont plutôt en tissu. Voilà, donc plutôt éviter les poupées en mousse de polyuréthane. Dans ces mousses-là, on trouve quand même encore aujourd'hui beaucoup de substances telles que des retardateurs de flamme, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Donc plutôt aller vers, pareil, des poupées qui ont vraiment textile avec du coton, de la laine, si possible avec un écolabel. Voilà, en tout cas des matériaux plus nobles. Et je pense que dans le domaine du jouet, comme dans tous les domaines finalement de la puériculture, c'est d'aller encore une fois au plus simple et au moins possible. Est-ce que l'enfant a réellement besoin de tous ces jouets-là ? Est-ce qu'on peut pas juste limiter à 1, 2, 3 jouets, surtout à cet âge-là quand ils sont tout petits ? On n'est pas obligé d'en avoir beaucoup.
Merci beaucoup. On va bientôt clore, mais est-ce que tu as encore un message ou quelque chose que tu voudrais partager ?
Alors, je pense que le message que je peux véhiculer aujourd'hui, c'est d'une part un message pour les professionnels de la santé ou pour les futurs professionnels de la santé, qui est celui vraiment d'accompagner aujourd'hui les couples dans justement cet accueil du bébé avec ses différents matériaux. C'est important de les accompagner parce qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup de couples qui se posent de nombreuses questions sur l'achat de matériel, mais au-delà de ça, sur est-ce que c'est bon, voilà, pour moi, pour mon environnement, pour mon bébé. Et puis, je pense que les professionnels de la santé, et notamment les sages-femmes qui sont en contact direct de ces couples-là et qui ont la chance encore de pouvoir venir à domicile, faire des consultations, on a vraiment tout le loisir du coup d'observer le milieu dans lequel évoluent ces couples-là et de les accompagner, de les orienter vers des matériaux plus sains. Et il en va vraiment de la santé en fait de tout le monde, de cette femme enceinte, de cette famille qui a probablement encore des enfants en bas âge, de ce fœtus qui est en pleine évolution et puis de ses enfants. Puisque l'on sait vraiment aujourd'hui que tous ces polluants environnementaux, pendant cette période des 1000 jours, c'est-à-dire jusqu'aux 2 ans de l'enfant, ont vraiment un impact au niveau de la santé pour cet adulte en devenir quelque part. Donc il est vraiment de notre devoir en tant que sage-femme de véhiculer en fait ces bonnes pratiques. Et bien sûr de les rendre, comme on le disait tout à l'heure, le moins anxiogène possible, ce qui est très difficile. Donc à nous aussi de correctement véhiculer ces informations-là en voyant, en jugeant un petit peu qui nous avons en face de nous. On ne peut pas forcément donner les mêmes conseils, je veux dire, à tout le monde ou aller aussi loin dans les conseils avec chacune des familles parce que chacune a justement ses propres limites, aussi bien budgétaires que justement d'acceptation ou de crainte. Donc je pense qu'il faut toujours aller vers des conseils les plus appropriés, les plus
centrés
exactement en fonction de qui nous avons en face de nous. Et vraiment essayer de rendre ce thème comme un thème au cœur, au centre de notre consultation. Moi aujourd'hui, je suis sage-femme avant tout, mais je ne peux plus être que sage-femme. Je pense que toutes ces sages-femmes que nous sommes et toutes ces futures sages-femmes qui le sont et qui vont l'être doivent quelque part être toutes un petit peu des éco-sages-femmes. Ça fait vraiment partie de notre travail aujourd'hui et de notre regard. Ce métier de sage-femme doit aujourd'hui exister sous le prisme de la santé environnementale.
Merci beaucoup Aurélie.
Avec grand plaisir.